L'arrivée de Marie Guévenoux sur le territoire, la ministre déléguée aux Outre-mer entame ce soir une visite de 2 jours. Les délégations de services publics de Carouya et Car Sud ont été résiliées par le SMTU. Le syndicat a pris cette décision hier en raison du très lourd bilan des exactions. La Monique a disparu dans la nuit du 31 juillet au 1er août 1953. C'était au large de Marais. Chaque année, l'île commémore le dernier jour où ont été vus les disparus du caboteur naufragé. 200 étudiants de la province sud sur le départ pour la métropole. Une dernière réunion de préparation avait lieu cet après-midi au CAPS. 14 étudiants sportifs de haut niveau de l'UNC ont été sélectionnés dans le cadre du projet Excellence Paris 2024 pour assister à des épreuves des JO et rencontrer des athlètes. Les Jeux Olympiques toujours. Demain matin, Maxime Grousset tentera de décrocher l'or dans la finale du 100 mètres nage libre. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Troisième visite en Nouvelle-Calédonie pour Marie Guévenoux, la ministre déléguée en charge des Outre-mer, qui arrive à 18h sur le territoire. Elle vient de Polynésie française, où elle était depuis vendredi pour représenter le gouvernement lors de l'épreuve de surf des Jeux Olympiques. Jean-François Baudin.
Une visite à la demande du président de la République et dans le cadre de l'exécution des affaires courantes, puisque le gouvernement est démissionnaire. Selon son ordre de mission, Marie Guévenoux vient en Nouvelle-Calédonie aux côtés des agents engagés pour rétablir l'ordre sur le territoire et pour répondre à la crise que connaît la Calédonie depuis plusieurs semaines. Pendant cette visite de 2 jours, la ministre aura surtout beaucoup d'entretiens. Dès 19h30 ce soir, Marie Guévenoux sera reçue à l'hôtel de la province sud pour un entretien avec la présidente Sonia Baquès. Elle rencontrera ensuite les forces de sécurité intérieure avant de se rendre dans la soirée au commissariat central de Nouméa pour échanger avec les forces de sécurité. Demain, jeudi, la ministre déléguée enchaînera les entretiens à partir de 7h le matin, d'abord avec les présidents des associations de maires, puis avec le président du gouvernement Louis Mapou. Elle rencontrera ensuite les maires du Grand Nouméa avant de s'entretenir avec les représentants du monde économique. Son après-midi de demain sera consacré aux entretiens avec les groupes politiques, les loyalistes, puis le Rassemblement, Calédonie Ensemble, le groupe UCFL-NKS et Nationaliste, le groupe UNI et enfin l'éveil océanien. Marie Guévenoux terminera cette visite vendredi matin après un entretien avec le président du Congrès, Roquemitant. Une brève visite qui devrait surtout permettre à la ministre déléguée en charge des Outre-mer de prendre le pouls de la Nouvelle-Calédonie, près de 2 mois et demi après le début de l'insurrection, de mesurer les dégâts et les besoins et de sonder l'état d'esprit des responsables économiques et politiques.
Le SMTU en pleine réflexion et en plein changement. Le syndicat mixte des transports urbains en charge des transports publics terrestres dans l'agglomération a annoncé ce matin la résiliation de ses délégations de services publics avec Carouya et Car Sud. C'est une nouvelle étape qui s'ouvre, Jean-François.
Le transport public coûte cher et l'organisation du SMTU est complexe. Son financement est assuré pour un tiers par les collectivités du Grand Nouméa, 50% par la province sud et le reste réparti entre les 4 communes desservies, Nouméa, Dumbéa, Mondor et Païta. Un autre tiers du financement provient de taxes affectées et le dernier tiers des recettes commerciales, notamment la vente de tickets ou d'abonnements. Le système était donc déjà complexe et onéreux. Depuis les émeutes et les exactions du 13 mai, il ne peut plus fonctionner, explique Naya Wateou, la présidente du SMTU, qui était notre invitée dans le journal de la mi-journée.
Depuis le 13 mai, c'est un coup d'arrêt qui a été mis tout simplement sur la capacité pour les collectivités à pouvoir financer ces 2 délégations de services publics. Aujourd'hui, sur les dégâts, on est déjà sur un peu plus d'1 milliard de francs estimés sur de la dégradation de matériel, d'équipement, d'une fragilité en tout cas de pouvoir reprendre un réseau normal. Et tout ça va bien au-delà de l'aspect de la sécurité qui pour nous reste primordial. Donc effectivement, on avait déjà une capacité pour les collectivités à financer un transport en commun qui était compliqué. Les exactions depuis le 13 mai et qui à certains endroits continuent viennent mettre un coup d'arrêt sur la capacité des collectivités à assumer ces 2 DSP.
Le comité syndical du SMTU, qui regroupe toutes les collectivités contributrices, a donc pris la décision de résilier les délégations de services publics de Carouya et de Car Sud. Décision qui sera effective dans 6 mois, le 30 janvier 2025. Il s'agit d'une résiliation contractuelle.
On est parti sur une résiliation pour motif d'intérêt général, qui est une clause qui est déjà indiquée dans les contrats. Et puis, dès le début de la situation compliquée, on a toujours été en contact et en échange avec nos 2 délégataires, parce qu'on mesure aussi l'importance et l'impact que ça peut avoir au-delà des usagers, mais on parle aussi de 130 familles, 160 chauffeurs d'un côté comme de l'autre, qui finalement subissent aussi cette situation. Donc là, on part sur une période de 6 mois où l'objectif, ça va être, et comme je disais, on a déjà commencé à travailler avec eux, à imaginer la capacité pour le SMTU à pouvoir remettre en place un service à minima dans les conditions sécuritaires, parce que ça c'est essentiel, mais surtout pour lesquelles les collectivités vont être en capacité d'assumer sur les 6 mois qui restent le financement de ce transport.
Les délégataires du SMTU avaient donc été prévenus de cette situation à laquelle ils ont essayé de se préparer, et il va falloir maintenant, explique le président du GIE Carouille à Joseph Saliga, préparer la suite.
C'était prévisible, hein, vu la situation aujourd'hui des collectivités. La présidente du SMTU l'a bien précisé. Aujourd'hui, financièrement, le SMTU est en difficulté et on avait déjà connaissance de la résiliation. Du coup, les discussions vont commencer la semaine prochaine et on va discuter notamment de la future DSP ou des futurs contrats de délégation. Donc, pour l'instant, on a eu cette nouvelle qu'on attendait, hein, on savait très bien que ça allait tomber. Maintenant, le GIE s'est préparé, il avait même fait une offre donc par rapport à la situation actuelle. Maintenant, on attend de voir les discussions, en sachant qu'on a quand même 250 employés qui sont impactés au sein de l'entreprise Carouille. C'est toutes ces discussions-là qu'il faut aborder là, avant cette la semaine prochaine.
En attendant, la préoccupation du SMTU, c'est de voir comment et à quelles conditions le réseau va pouvoir reprendre. Dans tous les cas, nous a dit Nayawateu, ce ne sera pas tout de suite.
Jusqu'à septembre, il n'y aura pas de reprise du réseau. Mais en parallèle, l'objectif, c'est de voir comment est-ce qu'on peut reprendre à minima. Aujourd'hui, est-ce qu'on est en capacité de pouvoir mettre en place une ligne qui fasse Païta, Médipôle, Moselle, pour aller, je l'espère, jusqu'au lycée du Mont d'Or, et pouvoir avoir aussi cette connexion qui se fait? Comment, sur l'intérieur de la commune de Nouméa, on arrive à avoir une distribution du transport qui permette aux étudiants, par exemple, d'aller de Moselle jusqu'à Nouville? Comment est-ce qu'on peut aller toucher des quartiers de Magenta, je l'espère, à un moment donné, de Rivière-Celle? Et tout ça va être conditionné à la capacité de faire circuler des bus en toute sécurité, de pouvoir aussi prendre en compte cette nouvelle réalité. Aujourd'hui, sur les propositions qui sont faites par nos différents délégataires, on a notamment la question de la vente à bord. C'est un vrai sujet. Aujourd'hui, nos distributeurs de billets sont tous dégradés.
Mais la vente à bord dit du liquide à bord des véhicules.
Là, on a un vrai sujet sur la sécurité des chauffeurs, sur la sécurité des usagers. Donc, tout ça fait partie des discussions qu'on commence à avoir, parce qu'encore une fois, il n'y a jamais eu rupture d'échange et de dialogue avec nos deux délégataires.
Le SMTU travaille donc à la fois sur une éventuelle reprise du transport en commun à partir de mi-septembre et parallèlement, une fois effective la résiliation des délégations des services publics au 30 janvier 2025, il faudra mettre en place une autre organisation du SMTU, mais aussi de son réseau, sachant, comme l'a répété Nayawateu à plusieurs reprises, qu'il ne pourra plus ressembler à celui qui existait avant le 13 mai.
Les compagnies d'assurance sont évidemment très sollicitées en ce moment. Comment travaillent-elles? Quelles sont leurs contraintes? Comment répondent-elles aux critiques qui leur sont parfois adressées? Rendez-vous demain matin. Notre invité à 7h30 sera en effet Thomas Chollet, membre du COSODA, le comité des sociétés d'assurance de Nouvelle-Calédonie.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Notre question du jour: avec le départ de nombreux médecins, craignez-vous une dégradation à moyen terme du niveau sanitaire de la Nouvelle-Calédonie? Si vous le craignez, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. La réponse à notre question d'hier: 69% des auditeurs de RRB qui se sont exprimés par SMS pensent qu'après l'assouplissement du couvre-feu qui débute désormais à 22h, il faut autoriser les cavistes à rouvrir. Ils sont 31% à être d'un avis contraire. Traditionnelle commémoration à Marais de la disparition du caboteur La Monique, naufragé dans la nuit du 31 juillet au 1er août 1953 au large de Nengoné. 126 personnes, parmi lesquelles 18 membres d'équipage, se trouvaient à bord. L'événement est resté un mystère et a représenté un drame à l'échelle de toute la Calédonie. C'est donc le 31 juillet que tous ces disparus ont été vus pour la dernière fois à Marais. Et cette date est célébrée chaque année sur l'île. Les précisions d'Émile Lacorédine, le premier adjoint au maire de Marais.
Nos coutumiers, nos vieux sur Marais ont décidé de commémorer la disparition de la Monique. Donc c'est un événement aussi bien local que calédonien, mais nos coutumiers, nos vieux se sont appropriés de cet événement parce que c'est le dernier endroit où les disparus de la Monique étaient vivants. C'est une année comme les autres, c'est une organisation locale avec toutes les écoles de Marais. Et surtout l'interprétation des écoles sur la disparition de la Monique, de passer de la phase émotionnelle à une autre phase. À travers la Monique, qu'est-ce qu'on peut interpréter à travers les enseignants, les scolaires, les artistes? Et c'est surtout sur quoi on se projette ensemble, puisque la Monique, c'est un peu c'est l'histoire commune, comme le bagne calédonien. C'est une histoire sur l'histoire. il y a l'histoire, notre histoire à tous, et c'est ce qu'on appelle un patrimoine commun.
Une soixantaine d'événements avaient été organisés l'année dernière sur l'ensemble du territoire pour les 70 ans du naufrage de la Monique, pour donner vie à ce drame qui avait marqué l'histoire de la Calédonie. Il est 17h55, nous marquons une première pause dans ce journal avant de développer la suite de l'actualité en Calédonie. On parlera d'abord de ces 200 étudiants de la province sud qui s'apprêtent à partir pour la métropole. A tout de suite.
La Calédonienne des Eaux vous facilite la vie. Payez directement vos factures en ligne ou demandez le prélèvement automatique. C'est simple, c'est rapide et surtout écologique. Rendez-vous au plus vite sur le site www.cde.nc. Pour vous comme pour nous sur RRB, il n'y a pas de jour sans la Calédonienne des Eaux.
Spécial info jeu SMS sur RRB, le jeu du million 40-20 change de formule. Maintenant, c'est tous les 1500 SMS pile sur le compteur pour gagner 100 000 francs de bons d'achat à dépenser où vous voulez, comme vous voulez. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Alors pour jouer, envoyez RRB par SMS au 40-20. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 40-20. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 40-20. Bonne chance.
Info soir, Isabelle Pelletier.
Hier et aujourd'hui se sont tenues des réunions de préparation au départ de jeunes étudiants organisées par la province sud. Près de 200 jeunes s'en vont en métropole pour la première fois pour suivre leurs études. Léana Colombo.
Oui, comment bien choisir sa banque, préparer son numéro de sécurité sociale ou encore trouver un logement à distance. Autant de problématiques auxquelles sont confrontés les étudiants primo-arrivants en métropole. Hier et aujourd'hui, ils étaient réunis en groupe organisé par la province sud pour se préparer au départ. Cette année, ils seront à Lyon à cause des Jeux Olympiques se déroulant à Paris. Une centaine d'étudiants seront logés sur place et accompagnés dans leur démarche pendant 3 jours. Un dispositif destiné aux étudiants boursiers comme non boursiers est pris en charge par la province malgré les coupes budgétaires. Un choix de la collectivité, celui d'investir dans la jeunesse et dans l'avenir, comme l'explique Marie-Jo Barbier, présidente de la commission de l'enseignement à la province sud.
Effectivement, un billet d'avion actuellement, en cette période, par rapport aux Jeux Olympiques et puis par rapport à la crise aussi, coûte à la collectivité entre 400 et 500 000 francs par billet d'avion, à savoir qu'on a 200 étudiants qui sont sur le départ. Effectivement, il faut savoir que la collectivité fait énormément de coupes sur son budget en raison de la crise budgétaire. Et puis l'exécutif provincial a tenu à maintenir ce dispositif d'accompagnement des étudiants. En fait, maintenir ce dispositif par rapport à d'autres qu'on a pu supprimer, eh bien effectivement, on a parié sur la jeunesse. C'est un pari sur l'avenir, donc on a souhaité maintenir ce dispositif.
Les étudiants et leurs parents étaient cet après-midi bien attentifs aux recommandations données par les coordinatrices du dispositif d'accompagnement. Un départ rempli d'inquiétude dans le contexte insurrectionnel que connaît la Calédonie, mais également l'occasion pour ces jeunes de commencer une nouvelle aventure. On écoute le témoignage de cette étudiante et de son père. Elle quittera bientôt le territoire pour effectuer un BTS, et ce, dans la ville de Bordeaux.
Ça me rassure quand même de partir et tout. Enfin, j'ai une hâte aussi, mais en même temps, j'appréhende parce que je laisse ma famille, mes amis ici dans ce caca, on va dire ça. Et du coup, bah oui, c'est vrai que ça me rassure pas beaucoup quand même de les laisser comme ça, surtout bah, mes grands-parents et tout. Mais après, bon, ben, c'est bien, ça fait un nouveau départ aussi dans ma vie et tout.
C'est rassurant pour les parents de savoir que ben, les jeunes seront accueillis par les gens de la province sud, parce que c'est vrai qu'ils seront loin et ça va être compliqué. Quelle qu'a été la situation, j'aurais poussé pour qu'elles partent, parce que c'est important pour apprendre, pour découvrir d'autres façons de vivre, d'autres choses, et puis surtout pour revenir faire bénéficier après de plein de belles compétences à la Nouvelle-Calédonie.
4 groupes étudiants seront donc accueillis à Lyon le 18, le 21, le 25 puis le 28 août. Ils resteront sur place 3 jours pour être ensuite envoyés vers leur ville d'études.
Les premiers alternants du CFA reviennent en formation. Ce matin, place à la pratique pour une alternante en esthétique dans les locaux de l'Institut Grain de Beauté à Magenta, Léana.
Plus de salles de cours pour la théorie, plus de plateaux techniques pour la pratique. Le CFA, le centre de formation des apprentis apprentis pillés et incendiés au début des émeutes a dû recourir au système D. La Chambre de commerce et d'industrie accueille ainsi depuis cette semaine les cours pour la partie théorique. Les alternants en esthétique ont aussi désormais des locaux pour héberger la partie pratique de leur formation. Ce matin, Jennifer, 36 ans, qui se reconvertit dans le domaine de l'esthétique après avoir longtemps exercé comme aide-soignante, travaillait le maquillage dans une cabine de l'Institut sous l'œil attentif de sa formatrice et le maître mot s'adapter.
On a eu une interruption dans la formation depuis le 13 mai. On a repris la partie théorique cette semaine. Le reste du temps, on est resté en entreprise pour celles qui pouvaient en tout cas. Actuellement, on fait la théorie dans les locaux de la CCI. À partir de septembre, on n'a encore rien de sûr et rien de concret. Et pour la pratique, on est accueilli par l'Institut Grain de Beauté du coup. C'est complètement différent. L'organisation au CFA, on avait la salle théorique qui était accolée à la salle de pratique. Au niveau de la salle de pratique, on avait quand même un lit, une mallette, enfin on avait tout le matériel pour chacune d'entre nous. Là, on est dans une cabine qui normalement accueille deux personnes et on va être quatre, voire cinq. On est obligé de faire deux groupes. Où initialement on était toutes dans la même pièce. Donc effectivement, ça perturbe même pour les sujets d'entraînement à l'examen. C'est un petit peu différent maintenant. Mais on s'adapte, on fait comme tout le monde.
Les alternants de la filière coiffure ont aussi repris cette semaine la partie pratique de leur formation. D'ici deux semaines, ceux de la filière boucherie seront accueillis dans les laboratoires de la boucherie d'Auchan à Motorpool.
Les camps de vacances s'adaptent à la situation actuelle du territoire. Les vacances scolaires débutent samedi et déjà, les structures d'accueil font face à de nombreuses difficultés.
Si certains camps avaient déjà ouvert lors des vacances du mois de juin, l'organisation reste effectivement très compliquée. Le premier souci reste d'assurer la sécurité des enfants pris en charge et de rassurer les familles. Le programme a donc dû être adapté en fonction des exactions et des structures encore ouvertes, explique Brieux-Pierre Large, directeur général de l'association Les Villages de Magenta.
On s'organise un petit peu comme on peut avec les moyens du bord, puisque avant de commencer, c'est vrai qu'on a perdu notre doc où on stockait 100% de notre matériel, donc il a été incendié fin mai. Sinon, en dehors de ça, pour les vacances d'août, donc on a pris la décision d'annuler nos colos de vacances qui se déroulaient normalement à Terrain-Bail à Bouraille. Et on a par contre quatre centres de loisirs, donc deux à Nouméa et deux à Dembéa, qui sont au programme et qui, normalement, pourront se faire dans de bonnes conditions. Il y a un programme légèrement adapté en fonction des structures qui sont encore debout, de celles qui peuvent nous accueillir et qui sont ouvertes, hein, des structures sportives, des structures culturelles comme les musées, puisqu'on a des sorties au musée. Donc voilà, on essaye de s'adapter comme on peut avec ce qui est encore disponible.
Les exactions de ces derniers mois ont eu pour conséquence directe une baisse générale des inscriptions dans tous les centres de vacances. Les Villages de Magenta accueillent habituellement près de 300 enfants lors de cette période. L'association pense en accueillir entre 100 et 150 pour le mois d'août. Et parmi les autres complications soulevées, Christian Canel, secrétaire général de l'ACAF, évoque le manque de transport en commun et les difficultés financières des familles.
Difficultés financière, oui, parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont perdu leur emploi ou qui sont en chômage partiel et qui ont de la difficulté à payer la participation. Même si à la CAF, les tarifs sont particulièrement bas, il n'empêche que quand vous avez deux, trois enfants, la somme monte vite. Et en même temps, c'est une dépense incontournable pour eux, puisque c'est la condition pour pouvoir aller travailler. Et puis, des difficultés de logistique aussi, parce que si nous, ça nous pose des problèmes logistiques, les parents aussi, parce que pour se déplacer, c'est difficile. Bon, quand on a une voiture, ça va. Aujourd'hui, c'est à peu près rétabli. Mais pour toute la population qui utilise les bus et le néobus, là, c'est aussi beaucoup plus compliqué, ne serait-ce que pour venir inscrire. On n'a pas forcément Internet à la maison pour faire de l'inscription à distance. Enfin, c'est toutes ces difficultés-là qui apparaissent aujourd'hui.
La plupart des camps ouvriront pendant les vacances, parfois partiellement, comme pour l'association Les Piroguiers du Mont d'Or, qui a fait le choix d'accueillir les enfants uniquement à Boulary et à Ploum en raison de sa situation géographique particulière, avec notamment l'axe de Saint-Louis qui est toujours coupé à la circulation.
Merci Léana Colombo, les 18h04. Nous marquons une nouvelle pause dans ce journal avant de passer à l'actualité dans la région et puis d'ouvrir nos pages sportives, principalement consacrées, vous l'aurez compris, aux Jeux Olympiques. On se retrouve après une page de pub.
Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
Cafard, termites, rats, pensez Formula 4D. Vos problèmes seront maîtrisés par une équipe appliquée. Formula 4D, un service de qualité avec réactivité. Info sur formula4d.com.
RRB, première radio d'information.
La suite du journal, Isabelle Pelletier.
Et l'actualité dans la région avec ce pavé dans la mare d'Air New Zealand. C'est la première compagnie aérienne à admettre que l'objectif de réduction des émissions de CO2 sont irréalisables d'ici à 2030, comme c'était prévu. Et elle renonce à cet objectif. C'est la correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Air New Zealand s'était fixé pour objectif de réduire son empreinte carbone de 29% par rapport au niveau de 2019, notamment grâce à l'utilisation de carburants aviation plus propres et d'avions à faible taux d'émission. Le transporteur aérien vient toutefois d'admettre que cet objectif est difficile à atteindre au point d'être irréalisable. Le PDG d'Air New Zealand, Greg Foran, a déclaré qu'il était aussi devenu évident que les retards potentiels dans les plans de renouvellement de la flotte posent un risque supplémentaire pour la réalisation de l'ensemble du projet. « Il est possible, a-t-il dit, que nous ayons à conserver notre flotte actuelle plus longtemps que prévu en raison des problèmes de fabrication qui pourraient ralentir l'introduction d'avions plus récents et plus économes en carburant. » Dans ce contexte, décision a été prise d'abandonner l'objectif 2030 que nous nous étions fixés, a-t-il conclu. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Des étudiants de l'Université de la Nouvelle-Calédonie vont en quelque sorte participer aux Jeux Olympiques. Ils assisteront en effet à plusieurs épreuves la semaine prochaine, dont des finales. Ils auront l'occasion de rencontrer les athlètes au Club France, Léo Fichou.
Le projet s'intitule Excellence Paris 2024. Il s'inscrit dans la politique sportive de l'UNC. 14 étudiants sportifs de haut niveau ont été sélectionnés et leur programme est chargé. Les quarts de finale du basket à Paris-Bercy, la finale du handball masculin au stade Pierre-Mauroy de Lille, les finale également du football au Parc des Princes et puis une journée d'athlétisme au Stade de France. Les étudiants sont également invités au Club France pour rencontrer les athlètes. Ils pourront croiser leurs sportifs préférés. Une rencontre est même prévue avec les athlètes olympiques et paralympiques calédoniens. Les détails d'Éric Michalak, directeur du service des sports de l'UNC. Il est à l'origine du projet.
Il y a 9 étudiants qui partent de Nouméa. Il y en a 5 qui sont déjà là-bas sur place, tout simplement parce qu'on ne pouvait pas prendre 14 personnes partant d'ici. Ça, le coût était trop important. Le financement étant à 90% privé, puisque c'est des sponsors. C'est un projet qui a été mis en place l'année dernière, donc l'argent avait déjà été versé à ce sujet. Il y a d'argent qui vient de l'université et aussi les familles, pour ceux qui partent de Nouméa, ont participé. Donc ils ont été sélectionnés avant tout sur le fait d'être étudiants et sportifs de haut niveau ou d'un certain niveau.
Loanville fait partie des 14 étudiants sélectionnés. Récemment sacrée championne de France sur 400 mètres et la sociétaire du club de Koumac a hâte de s'inspirer des meilleurs athlètes de sa discipline.
Oui, j'ai une grande chance de pouvoir voir l'athlétisme. Normalement, en fin de soirée, il y a le 400 et le 400 et il y a des finales de sprint, il me semble. Et il risque d'y avoir des records du monde, au moins sur le 400 mètres. Mais peu importe la discipline, ça restera impressionnant. De voir des athlètes qu'on connaît, forcément, ça ouvre le chemin, entre guillemets. Et ça fait plaisir de savoir que ces gens-là, ils ont travaillé et qu'ils sont là et qu'on fera partie du public pour les encourager. J'espère vraiment du plus profond de mon cœur y être dans 4 ans. Et on verra, il reste encore du chemin, mais ça va passer très vite. Pour moi, là, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé dans ma tête, c'est que là, je rentre enfin dans mon Olympiade. C'est 4 ans pour préparer les Jeux Olympiques, et ça y est, c'est maintenant que ça commence, en fait. Il n'y a plus une année à perdre.
Loanville à l'athlétisme et Yazid Wajoka au football. Le fils de Pierre Wajoka sera lui aussi de la partie.
Sortir un peu du pays, histoire d'oublier un peu la situation. Et aussi, rencontrer des grandes stars, peut-être futures stars du football, sachant qu'il est moins de 23. Et oui, ça peut bien sûr m'inspirer pour plus tard. Pourquoi pas aussi me donner envie de continuer le football et pourquoi pas devenir professionnel. Et voilà, pourquoi pas avoir un peu d'inspiration par rapport à mon niveau football. Et voilà, espérant pouvoir devenir un athlète avec ces voyages-là.
voir autre chose que ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie actuellement est un point important pour les jeunes calédoniens. Mais ce voyage servira également à donner une belle image du territoire en métropole, souligne Éric Michalak.
Ce projet prend encore plus de sens peut-être actuellement parce que c'est important de donner notre image de la Nouvelle-Calédonie, parce que les gens en métropole n'entendent que voilà, des exactions, de la violence, etc. Et pour moi, bien évidemment, c'est pas ça. La Nouvelle-Calédonie, c'est des jeunes aussi qui remplissent des formes d'excellence. Alors, ça peut être sportif, ça peut être artistique, etc. Et c'est une réelle opportunité, ce projet, justement, en se rendant au Club France et en étant spectateur dans les tribunes et on espère se manifester pour être visible, montrer que la Nouvelle-Calédonie, c'est des ambassadeurs que représentent les étudiants, qui sont capables de réaliser à la fois un projet sportif et un projet universitaire, donc réussi du double projet, et que la Calédonie a besoin aussi, à un moment donné, voilà, qu'on la fasse rayonner autrement qu'à travers de la violence.
Les 14 étudiants de l'UNC et leurs accompagnateurs s'envoleront pour Paris dès le début de semaine prochaine. Vous pourrez suivre leur aventure sur leur page Facebook, projet Excellence avec un S majuscule à la fin, Paris 2024.
Et nous ouvrons maintenant nos pages Jeux Olympiques 2024.
Les pages spéciales des Jeux Olympiques sur RRB avec la Banque de Nouvelle-Calédonie, partenaire premium de Paris 2024.
Les Jeux Olympiques dominent bien sûr l'actualité sportive. Nous ouvrons donc nos pages spéciales Paris 2024. La compétition continue dans la capitale avec le camp français qui pointe actuellement à la 4e place. Des médailles sont notamment espérées avec des Calédoniens en natation, Léo Fichou.
Et demain, ce sera peut-être le grand jour pour Maxime Grousset. À 25 ans, celui qui avait été terminé au pied du podium du 100 mètres nage libre au JO de Tokyo il y a 3 ans, a désormais les armes pour aller chercher l'or olympique. Il s'est qualifié pour la finale de l'épreuve Rennes avec le 4e temps des demi-finales. La finale est programmée donc demain matin à 7h39 pour nous à Nouméa. La fan zone du CNC sera de nouveau ouverte demain matin dès 5h, on l'espère, avec des médailles donc pour les Calédoniens, mais d'autres médailles pour le camp tricolore et notamment la finale de Léon Marchand sur 200 mètres papillon. Ce sera à 5h37.
Toujours au JO 2024, un autre Calédonien à suivre dans les épreuves, cette fois de planche à voile.
Et oui, Nicolas Goyard dispute les épreuves d'IQ Foil à Marseille, si les conditions météo le permettent. Nicolas Goyard est pour le moment dans le top 10 après les 6 premières manches. Il avait réalisé une excellente entrée en matière lors de la première journée avant de connaître une deuxième journée plus compliquée. On rappelle que son frère Thomas Goyard avait gagné une médaille d'argent en windsurf à Tokyo en 2021. Et en surf aussi, on espère des conditions météo plus clémentes pour la reprise des épreuves en Polynésie française sur la vague de Teahupo avec le Tahitien Kaouli Vast, dont la mère est calédonienne. Il disputera les quarts de finale face à Johan Duru, un autre Français. Et cette nuit à suivre également l'équipe de France de handball qui doit se rattraper face à l'Égypte, les coéquipiers de Nicolas Karabatic qui ont perdu leurs deux premiers matchs des phases de poule contre le Danemark et la Norvège. Et il y aura également du football avec les féminines.
C'était les pages spéciales des Jeux Olympiques sur RRB avec la Banque de Nouvelle-Calédonie, partenaire premium de Paris 2024.
Et puis c'est Jacqueline, habitante de Magenta, qui est aujourd'hui la gagnante de notre jeu de mémoire de jeu. Elle a été tirée au sort parmi tous ceux qui ont donné la bonne réponse aujourd'hui. Et elle remporte un bon carburant de 5000 francs offert par notre partenaire Shell. Nous vous demandions aujourd'hui lequel de ces trois nageurs américains avait fait une carrière au cinéma après avoir arrêté la compétition et obtenu plusieurs titres olympiques. Vous aviez le choix entre Mark Spitz, Johnny Weissmuller et Michael Phelps. Et la bonne réponse était bien sûr Johnny Weissmuller. Après ses 5 médailles d'or obtenu au JO de Paris en 1924 et Amsterdam en 1928. Il a été choisi pour incarner Tarzan au cinéma, notamment pour sa musculature et évidemment pour ses talents de nageur. Il jouera le rôle de Tarzan dans plus de 12 films, mais ce sont les trois premiers qui ont fait sa célébrité. Rendez-vous demain pour une nouvelle question de mémoire de jeu sur RRB. Il est 18h14, nous arrivons au terme de ce journal et on va passer maintenant à la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et la météo, c'est bien sûr avec vous, Nicolas.
Oui, alors, vigilance jaune pour forte houle, pour une houle longue de sud-sud-ouest voisine de 3 mètres de Coumac à l'île des Pins. Cette nuit, le ciel restera brûlé ou couvert. Quelques gouttes seront possibles par endroits sur la côte ouest. Sur le sud, le vent de sud à sud-ouest sera voisin de 10 nœuds. Ailleurs, il sera toujours de sud à sud-est, proche de 15 nœuds localement, entre 15 et 20 nœuds sur la pointe nord et Bélep. C'est dans l'intérieur que les températures seront les plus fraîches. Elles descendront localement jusqu'à 14-15 15 degrés. Demain matin, le ciel sera souvent couvert par des nuages élevés. Des nuages bas intéresseront également la façade ouest et le nord. Ils donneront quelques averses faibles sur l'ouest et le nord-est. Peu de changements du côté du vent. Il oscillera entre le secteur sud et le sud-est, entre 10 et 15 nœuds, localement 15 à 20 nœuds sur la pointe nord, de 5 à 10 nœuds sur le sud-ouest et variable faible sur l'est à l'abri de la chaîne.